Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Notre invité aujourd'hui,
Isaac Josua, je suis maître de conférence à l'université Paris 11.
Après les attentats du 11 septembre dernier, de grosses inquiétudes ont plané sur l'économie. On pensait éventuellement partir dans une récession. Et puis, en lisant les médias, on a l'impression que tout va pour le mieux, au moins ces derniers temps. De sorte que le Monde est capable de titrer le 26 janvier 2002, l'Amérique croit en la reprise. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est que le sous-titre est « Alan Greenspan affirme que les États-Unis s'apprêtent à sortir de la récession ». Alors, récession ou pas récession, j'ai pas bien suivi l'affaire.
Ben, je crois qu'il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. Il y a quelques mois, les journaux étaient pleins d'inquiétudes sur l'avenir de l'économie mondiale. Et maintenant, tout se passe comme si on a l'impression qu'on était sorti d'affaire. Or, en réalité, il faut dire, je pense, les choses comme elles sont. L'économie mondiale est en dépression économique. Le Japon est en récession sévère. Les États-Unis sont en récession depuis mars 2001, donc bien avant les attentats du 11 septembre. Je tenais à relever ça au passage par rapport à ce que tu as dit il y a un moment. Et enfin, la zone euro est au point mort. Dans le cas de cette zone, d'ailleurs, l'Allemagne est en récession, la France a un taux de croissance zéro. Une fois qu'on a fait le tour de ces trois grands pôles de l'économie mondiale, on a pratiquement l'économie mondiale devant nous. Autrement dit, on est dans une situation qui demeure tout à fait inquiétante et qui se manifeste par une accumulation de faillites, comme ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment, Enron, Eckmart, la chaîne de distribution, et une montée du chômage qu'on observe en France également.
Mais récession, qu'est-ce que ça veut dire précisément ?
Alors, récession, l'idée qu'il y a derrière, c'est un recul de l'activité. Il y a deux définitions qui sont en général admises. La définition technique un petit peu internationale, c'est deux trimestres successifs de recul du produit intérieur brut, calculé évidemment en volume. Aux États-Unis, on a quelque chose d'un peu plus précis, je pense, qui est un indice qui a été mis en avant par le National Bureau of Economic Research, et qui, en accumulant un certain nombre de données diverses sur l'économie, est capable, enfin pense être capable de dater le début et la fin des récessions. Et c'est comme cela qu'on a décrété que la récession avait commencé dès mars 2001 aux États-Unis.
Globalement, quand même, ça veut dire qu'on produit moins que ce qu'on produisait avant, finalement.
Oui, disons que le PIB est censé être une mesure de... disons ce qui a été créé époque après époque, mois après mois, année après année, etc. Et ce qu'on peut distribuer sous forme de revenus, puis ensuite consommer. En règle générale, heureusement, ce PIB est croissant. Il arrive qu'il recule, et si ce recul est suffisamment prononcé, on parlera effectivement de récession.
Et quelles sont les causes de cette récession alors ?
Alors, je pense que pour bien comprendre ce qu'il en est, il faut remonter quand même assez loin, c'est-à-dire à la crise de 1929. Qui a été quand même la grande crise dont on continue à parler encore aujourd'hui. Et en remontant à ce moment-là, ou en tous les cas au lendemain de cette grande crise, on met en avant le fait qu'il y a eu une prise de conscience quand même qui s'est produite à ce moment-là sur l'instabilité foncière du système. C'est-à-dire que ce système, laissé à lui seul, est quand même pas vraiment capable de se tenir debout et qu'il a quand même une sacrée tendance à se casser la figure toutes les X temps. Donc il faut compenser cette instabilité par un certain nombre de mesures, et un certain nombre de mesures ont été prises, pas toutes celles qu'il aurait fallu, mais un certain nombre de mesures ont été prises, et donc un nouveau modèle de régulation de l'économie a été mis en place qui tranchait par rapport au modèle antérieur qui était quand même assez libéral. Alors ce modèle, il y a deux aspects principaux, c'est une intervention accrue de l'État, et puis toute une série de procédés qui permettent de stabiliser le revenu des ménages, même dans les périodes adverses, et donc ils soutiennent la consommation et soutiennent l'activité. L'inconvénient, évidemment, de ces mesures, et il est difficile d'avoir tout en même temps, c'est que ça risque et ça porte effectivement atteinte au taux de profit, et qu'au bout d'un certain temps, des taux de profit qui par ailleurs étaient dégradés, eh ben, ça a paru insupportable aux patrons et à tous ceux qui vivent du capital et investissent, et donc on a eu affaire à cette fameuse offensive néolibérale des années 80 avec Thatcher, Reagan, qui ouvre l'époque dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On a jeté par-dessus bord toute une série de règles de garde-fous qui avaient été mises en place, qui avaient contribué, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais qui avaient contribué à stabiliser l'économie mondiale pendant quand même pas mal d'années, et qu'on a, littéralement brisé, bon, en tous les cas, une bonne partie d'entre eux, heureusement pas tous. Et à partir de là, évidemment, à mes yeux, je pense que c'est l'explication essentielle de la situation dans laquelle on se trouve, on renoue avec l'ère des crises majeures, on renoue avec l'instabilité fondamentale du système, on est à nouveau en phase de crise qu'on n'avait pas vue depuis la fin du 19e siècle, du début du 20e, avec des crises financières, typiquement financières, liées au mouvement de capitaux, à la bourse, enfin, etc. C'est des choses qui avaient pratiquement disparu, qu'on revoit maintenant parce que, pour reconstituer ce taux de profit qui les fait vivre, auquel ils tiennent tant, eh ben, ils ont brisé une bonne partie de ce qui avait été mis en place.
Mais c'est un peu étrange, alors ils sont en train de scier, finalement, enfin les capitalistes, si on veut développer un peu plus, disons, sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, c'est un peu étrange, non ?
Bah, la branche sur laquelle ils sont assis est celle du système capitaliste, et ce système a quand même des règles fondamentales, même si il doit être analysé période par période. Il a une dimension historique qui est tout à fait importante, mais vu que c'est un système, bah, forcément, il a des traits structurels, je pense, importants, et l'un des traits importants de ce système, à mes yeux, c'est qu'il est constamment en train de naviguer entre deux risques. Soit un risque d'instabilité s'il n'est pas encadré, réglementé, etc. Parce qu'au fond, c'est un système qui est anarchique. Mmh. Il est basé sur la propriété privée, où chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Chacun pense qu'il sera plus malin que l'autre, etc. Il n'y a pas de planification, il n'y a pas de concertation. Au contraire, c'est la lutte universelle de tous contre tous. Donc, il y a ce risque-là. Et d'un autre côté, l'autre risque qui les menace, c'est le risque d'étouffement. C'est-à-dire que si, pour éviter le risque d'instabilité, on met en place des mesures de réglementation, d'encadrement, etc., eh bien, on porte atteinte directement, indirectement, je dis presque inévitablement, au taux de profit. Et à partir d'un certain seuil, ça leur paraît insupportable. Ils ont besoin d'avoir les coups des franches. Et à un moment ou à un autre, ils se précipiteront en nouveau pour jeter par-dessus bord. Oui, en un sens, ici, la branche sur laquelle ils sont assis, mais après tout, c'est leur système.
Des sous et des hommes, vous écoutez à l'YFM 93.1 et nous sommes avec Isaac Joshua, maître de conférence à Paris 11. On parlait de crise, de récession, et j'avais cité en début d'émission un chapeau du Monde du 26 janvier. J'aurais voulu savoir de façon plus précise quelles sont les causes de la crise ou de la récession, je ne sais pas comment il faudra vraiment l'appeler, aux États-Unis.
L'offensive néolibérale dont on parlait il y a un moment a abouti à toute une série de conséquences que nous vivons tous les jours, catastrophiques, mais elle a au moins deux aspects très importants. Bon, le premier, c'est la financiarisation, c'est-à-dire le fait d'avoir mis vraiment la finance au poste de commande, et en particulier de donner un rôle extrêmement important au marché financier, rôle qu'il n'avait pas, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années. Et ça, c'est un aspect sur lequel je reviendrai, qui me paraît absolument décisif dans la crise actuelle. L'autre aspect aussi important, c'est ce qu'on appelle la mondialisation, qui est mise un petit peu à toutes les sauces, mais qui signifie au moins, pour ce qui nous concerne, le fait d'avoir, disons, unifié un certain nombre de marchés à l'échelle mondiale, aussi bien marchandises que capitaux, d'avoir fait sauter toute une série de réglementations, les droits de douane, enfin, etc. Ce qui revient, finalement, à quand même unifier, à interconnecter, disons, l'ensemble des économies au niveau mondial.
Et en quoi ça peut amener une crise ?
Alors, cet élément-là, c'est très important. À soi tout seul, il n'amène pas une crise. Par contre, il peut être un élément amplificateur extrêmement important. Tout simplement parce qu'il va avoir deux effets. D'abord, il va mettre les économies qui, auparavant, avaient des cycles relativement divergents, il va les mettre en phase. Du fait même qu'il y a interconnexion, Ben, forcément, il va y avoir cycle conjoint. C'est-à-dire que quand ça monte, tout le monde monte en même temps. Et quand ça descend, tout le monde descend en même temps.
Un exemple peut-être de cela, c'est qu'on est justement en France très attentif à ce qui se passe aux États-Unis. Et on est sans arrêt en train de spéculer sur le tempo conjoint, justement, qui va...
Tout à fait. L'exemple ici qui nous intéresse le plus, c'est ce qui s'est passé pour la récession actuelle. C'est-à-dire que quand la récession a éclaté aux États-Unis, on a entendu un peu partout des discours sur le thème « l'Europe sera à l'abri », etc. Bon, et j'étais persuadé que c'était complètement bidon, et ça l'était, pour des raisons de mondialisation. C'est-à-dire que cette histoire-là, selon lesquelles il y a un pôle qui monte l'autre, pendant que l'autre descend et ça finit par s'équilibrer, c'est terminé à cause de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a voulu supprimer les frontières, supprimer, etc. Bon, c'est bien joli, mais en interconnectant, d'abord on ajuste l'ensemble des cycles et puis on les amplifie. Parce que, bien évidemment, le fait que vous ayez une économie dominante qui entre en récession et que très rapidement ça se répand, il y a aussi des effets en retour. Si la zone euro était arrivée à avoir une croissance ne serait-ce que légère, ça aurait pu compenser ce qui se passe aux États-Unis. Ce n'est pas le cas, et alors au contraire, ça amplifie. Hein, donc il y a ces deux effets-là, je pense qu'ils sont tout à fait importants. Alors ça nous renvoie finalement aux États-Unis, parce que, comme tu l'indiquais il y a un moment, c'est faramineux d'écouter, disons, les projections qui sont faites, les commentaires. On ne parle pratiquement pas de ce qui risque de se passer sur le plan européen, c'est toujours les États-Unis. Si on dit que la zone euro repartira au deuxième semestre de cette année, c'est parce qu'on pense que les États-Unis repartiront au premier semestre, enfin, etc. Alors, du côté américain, je pense que là, l'élément très important, c'est la financiarisation. C'est le fait qu'on ait donné une importance telle au marché financier, en particulier à la bourse. Il y a eu cette montée des nouvelles technologies, hein, avec Internet, avec le télécom et le portable, bon, l'informatique, hein, ce sont grosso modo les trois domaines. Bon, on a entretenu des espoirs là-dessus, et qui étaient seulement en partie fondés, qui ont été exagérés dans une proportion extraordinaire. Il y a eu des profits qui ont commencé à se dessiner, qui paraissaient mirobolants, et en conséquence de quoi, on a assisté à une montée des cours de la bourse. Ce qui est logique quand il y a des perspectives de profit à l'horizon, mais là, ce qui s'est passé, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on a affaire à une bulle spéculative, c'est-à-dire une montée des profits qui se fait à un rythme tel qu'elle ne peut correspondre à aucune évaluation raisonnable des profits futurs. On décolle complètement par rapport à la réalité, et malgré tous les avertissements, c'est-à-dire que c'est dans les colonnes des journaux, il y en avait, hein, mais bon, il y en avait qui voulaient rêver, et quand il s'agit de profits, l'appât du gain est quand même quelque chose d'absolument décisif. Or, je pense que cette bulle n'a été possible que parce qu'on a libéralisé les marchés financiers, on les a non seulement libéralisés, mais massivement encouragés, y compris avec des mesures fiscales à la clé, hein, et qu'on a laissé à la finance la bride sur le coup. Ça, sans ça, je pense que avec les marchés financiers qu'on avait pendant la période d'après-guerre, on n'aurait pas pu avoir une bulle de ce type. Or, cette bulle, à mon avis, a joué un rôle essentiel. Elle a suscité un sentiment d'euphorie extraordinaire, et en conséquence de quoi, elle a entraîné un phénomène de suraccumulation. L'accumulation, c'est quoi? C'est le fait de rajouter du capital au capital déjà existant. Et tant qu'on le rajoute à un rythme relativement lent, ça va. À partir du moment où on dépasse un certain rythme, c'est-à-dire qu'on va au-delà des perspectives de profit envisageables, évidemment, on aboutit à une accumulation excessive, à des surcapacités un petit peu dans tous les domaines. Et très rapidement, on finit par se rendre compte que les perspectives de profit que l'on avait envisagées ne sont pas au rendez-vous.
Mais ça, c'est dans des domaines particuliers. En quoi ça peut amener un espèce de crack ou une récession dans l'ensemble de l'économie d'un pays?
Alors, la première conséquence que ça entraîne, c'est une chute brutale de l'investissement dans les secteurs considérés. C'est-à-dire les secteurs des nouvelles technologies, semi-conducteurs, etc. Les secteurs de l'informatique. Il ne faut pas oublier qu'avec le boom auquel je viens de faire allusion, à la fin des années 90, plus de 50% des dépenses d'équipement des entreprises américaines étaient consacrées uniquement à l'informatique. Donc ça veut dire que c'est une place considérable, et ça veut dire que quand on arrive en l'an 2000, c'est du neuf. Et donc il n'y a pas un besoin de renouvellement immédiat, au contraire, on peut attendre, même on peut attendre plusieurs années. Bon, et enfin, il y a bon, tout le domaine, disons, de l'Internet et de la création de nouvelles sociétés. Là aussi, il y a suraccumulation, même si ça ne se traduit pas par des équipements, des machines, etc. Il y a des milliers de start-up hein, qui sont créées avec l'espoir d'eux, etc., puis finalement un espoir qui se révèle fallacieux. À partir de là, ces secteurs occupent une place très importante dans l'économie. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé la nouvelle économie. C'était quand même à ces secteurs-là qu'on faisait allusion. Si vous avez des problèmes dans la construction de chaises ou de tables, etc., ben ça n'aura aucun effet, évidemment. Mais si on a de gros problèmes dans les secteurs moteurs, ben c'est évident que ça aura des effets disproportionnés. Alors, cet effet-là, au bout d'un certain temps, il peut se résorber. Mais, du coup, il a dégagé un choc à l'égard du reste de l'économie. C'est comme une vague. Il y a une grosse pierre qui a été lancée dans la mare. À l'endroit où la pierre est tombée, peu à peu, ça se résorbe. Mais à partir de là, eh ben, sur l'ensemble de la mare, il y a une grosse vague qui part et qui va partir dans toutes les directions. Et ça, c'est ensuite un élément qui a des effets dépressifs cycliques, c'est-à-dire en spirale. Ça va mal parce que l'investissement a chuté, donc la demande diminue. Donc ça veut dire que d'autres secteurs vont licencier, ce qui va entraîner une chute de demande dans d'autres secteurs. C'est ce à quoi on assiste actuellement.
Je veux du soleil, et oui, c'est donc à l'YFM, des sous et des hommes. On est toujours avec Isaac Joshua, en parlant de soleil, c'était pas vraiment ça justement notre conversation d'avant, parce qu'on avait l'impression que tout allait pour le pire, et on voyait pas trop comment s'en sortir de tout ça. Vous avez des solutions, ou au moins des orientations peut-être?
Ben, c'est-à-dire qu'il faut savoir un petit peu quel est l'enjeu. Bon, je pense que c'est vrai que il faut remonter à 1929 pour trouver une bulle spéculative ayant une telle ampleur et avec de tels effets sur l'économie réelle et pour trouver une extension aussi rapide de la dépression. Ceci étant dit, une crise de l'ampleur de celle de 1929 est vraiment très peu probable aujourd'hui. Heureusement, parce que un certain nombre de stabilisateurs importants qui avaient été introduits après 29 sont toujours en place. On peut s'attendre plutôt à une dépression de l'activité qui traîne en longueur. De toute façon, il ne sera pas facile de tirer l'économie mondiale hors de l'ornière où elle est tombée. Alors que faire? Bon, on est confronté à une inefficacité quand même, une inefficacité des politiques traditionnelles. La baisse des taux impulsée par la banque américaine, la banque centrale, la Fed, a été très très loin, mais elle n'a pas pu éviter la récession. Les remises d'impôts ont déjà été mises en œuvre à une certaine échelle et ils n'ont pas pu non plus éviter la récession. Donc, moi, disons, je suis tenté, plutôt que de répondre à la question « que faire ?», de répondre à une autre question, c'est-à-dire « qu'est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire ?». C'est l'important maintenant. C'est de ne pas recommencer les mêmes erreurs, c'est de prendre conscience du fait que on n'est pas simplement face à un phénomène naturel, etc. On est face à des conséquences d'une offensive politique bien précise.
De choix qui ont été faits, c'est cela.
Absolument. Ce qui signifie que la réponse, c'est qu'il faut totalement changer de cap. D'abord, sur les deux plans que j'ai évoqués, c'est sur la question de la financiarisation, qui est un plan absolument décisif. Il faut casser les marchés financiers, il faut réglementer. Et sur le plan de la mondialisation, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a restituer le rôle de l'interventionnisme. Il faut qu'on arrête avec tous les tabous, tout l'ostracisme, enfin tout ce qu'on dit sur réglementer, etc. Il faut contrôler, il faut réglementer, c'est un changement total de cap qui est devenu indispensable. Et puis par ailleurs, il faut totalement refondre l'organisation économique internationale. C'est évident que face à la mondialisation, hein, qui unifie quand même un petit peu la planète, on n'a rien en face. Alors ce qu'on a, c'est catastrophique. Hein, c'est le FMI avec sa politique, dont on a vu les effets par exemple récemment en Argentine. Bon, ma conclusion, c'est que le discours de l'économiste rejoint et ne peut, à mes yeux, que rejoindre le discours de ceux qui sont actuellement à Porte-Alegre pour contester la mondialisation actuelle.
Eh bien, merci Isaac Joshua d'être venu nous expliquer tout cela. Je rappelle aux auditeurs qu'on peut nous contacter sur Internet, justement, cette fameuse vilaine bête qui est en train de déprimer à fond. C'est alygrefm.org. À l'intérieur des programmes, il y a une petite enveloppe sous le titre « Des sous et des hommes » et je suis au bout, donc vous pouvez me contacter par ce biais. Autrement, il y a le bon vieux système de la lettre à alygrefm93.1. 42 rue de Montreuil, 75 011, en n'oubliant pas de spécifier, émission des souhaits des hommes. À la semaine prochaine!